Bonjour, bonjour, bonjour mesdames et messieurs. À la technique, vous avez notre très grand spécialiste Giovanni Grandcaf qui va assurer jusqu'à midi. Merci Giovanni. Et aujourd'hui, nous allons parler islam. Nous allons parler de la religion de façon primaire, on va dire. De la façon dont on pratique et de la façon dont est arrivée la religion musulmane sur la terre, sur les pratiquants. Qui a été ce qu'on appelle le premier prophète, le prophète de l'islam. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Monsieur Bana. Monsieur Bana, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, on vous appelle comment? C'est comment Bana, c'est quoi? C'est quoi votre titre?
Allez, on va dire imam.
L'imam, on va l'imam. Dire que c'est un imam.
D'accord. Voilà, l'imam Bana, voilà.
L'imam Bana, est-ce qu'il n'y a pas un autre nom?
À La Réunion, on dit plutôt Molana Moïsab par rapport à nos cultures indiennes, on va dire. Ah. Et du coup, c'est plus Molana Moïsab, c'est vraiment de la culture indienne. Mais quand nous allons dans des pays, on va dire, arabophones, etc., ça sera cher, par exemple.
Ah, voilà. Vous êtes cher?
Non, moi non, mais pas encore cher, ça veut dire vieux aussi d'ailleurs.
Donc, c'est des sages aussi, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est, voilà, c'est ça.
Ce sont des personnes qui ont
une
certaine présence et un certain aura sur la...
Voilà, on n'a pas encore cela, on essaye, on y travaille, mais voilà.
Je sais que les musulmans, enfin les personnes qui pratiquent et qui ont fait des études sont des personnes très humbles, justement, comme vous, Maoulana.
Je ne sais pas. Nous y travaillons. Nous y travaillons.
Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, parce que je sais que vous êtes une personne très, très occupée.
Non, on n'est pas occupé, mais voilà. C'est la période un petit peu, on va dire, dans la distribution associative, etc.
Ah,
donc, voilà. Donc, c'est pour cela que...
Vous êtes une personne comme beaucoup de... personne que j'ai reçue très impliquée dans la communauté.
Ben, c'est la base, hein, c'est le ciment même de l'humanité finalement. Hein, donc, pas que la communauté d'ailleurs, hein,
oui.
Vraiment au niveau de tous les Réunionnais, de l'être humain en général. Donc,
c'est une grande mission.
L'humanité, bien sûr, bien entendu. Mais c'est une mission qui appartient à tout le monde. Hein. C'est une obligation, c'est un devoir pour tout un chacun d'être impliqué justement dans le vivre ensemble, dans le bien-être de l'humanité en général.
Le vivre ensemble de La Réunion,
La Réunion,
c'est connu et reconnu.
Effectivement, d'ailleurs, une petite parenthèse, hein, vous aviez reçu mon ami, hein, monsieur le rabbin.
Oui, Mendel.
Mendel, voilà, comme on aime l'appeler, on n'est pas loin, etc. On avait fait... ensemble, un diplôme universitaire, République et religion, ça s'appelle,
oui.
Qui a été, on a été diplômé. donc, il y avait monsieur le préfet, etc., qui était venu. Donc, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'était la première fois, justement, qu'un rabbin avait fait ce diplôme universitaire. Et voilà. Donc,
félicitations à vous deux.
Vous êtes bonjour à Mendel.
Shalom.
Shalom, voilà.
Rabbin Mendel, et puis... quand vous voulez nous voir, il n'y a pas de souci.
Bien sûr, on viendra ensemble, on essaiera de venir ensemble avec
Monseigneur
Pascal aussi, oui. Que je salue aussi aujourd'hui.
J'espère bien que je vais rassembler tout ce monde. Ah, bonjour,
Inch'Allah, comme on dit chez nous.
Amin.
Voilà.
Alors, on va aborder aussi, à partir de maintenant, le thème de l'émission.
Bien entendu.
La religion.
Oui,
alors,
oui.
Que pouvez-vous nous dire sur comment est apparue, comment la religion musulmane... est apparue. Comment elle a émergé et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter à ce sujet?
Donc déjà, il faut comprendre que beaucoup ne le savent pas, c'est que les musulmans y croient en toutes les religions abrahamiques, hein, en général, et tous les prophètes qui étaient là. Donc la question est très vaste. On va essayer d'y répondre brièvement.
Oui, tout à fait.
Oui. Bon, déjà pour commencer. Pour nous, l'islam a eu son... Chaque époque a eu son islam. Donc, malheureusement, j'ai oublié le... J'avais un joli poster avec l'arbre généalogique des prophètes. Mais bon, il est sur mon téléphone. Donc, on va commencer, par exemple, par Adam.
On le mettra sur le site.
Voilà,
après.
C'est ça. Donc, on a Adam. Par exemple, Adam, c'est le premier être humain, celui qui a été créé. Donc, lui aussi, quand il est arrivé sur la terre, il avait sa religion. Et pour nous musulmans, c'est, ça aussi c'était l'islam. Ensuite, on va aller beaucoup plus loin, on va sauter. Donc on a Idriss, Noé, etc. Ensuite, le plus important, Abraham.
Abraham, oui.
Donc il faut savoir que les trois religions monothéistes sont des religions abrahamiques. Donc on a la religion musulmane, déjà pour commencer, la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. C'est l'appellation qu'on a aujourd'hui en 2024. Pour nous musulmans, la religion juive, à son époque, c'était l'islam de l'époque.
Ah.
Et la religion chrétienne, où il y avait le prophète Issa, donc Jésus, c'était aussi l'islam de l'époque. Parce que finalement, l'islam que l'on connaît aujourd'hui est arrivé bien après.
Oui.
Donc, il faut bien comprendre qu'Abraham, c'est le papa, d'accord, c'est le grand-grand-père, on va dire, du monothéisme. Donc, il a eu des enfants. Donc, résumer, donc on a Isaac, on a Jacob, d'accord,
oui, Jacob.
Donc, son nom aussi, c'est Israël.
Israël,
ah, oui. Son deuxième nom, c'est Israël.
Ah, c'est Israël, d'accord.
Voilà, ouais. Donc Israël, d'accord, qui est écrit dans le Coran. Mm. Et tous ses enfants, c'est les Bani Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël.
Mmh.
D'accord. Et nous y croyons. Donc tous les prophètes que je suis en train de vous citer sont cités dans le Coran.
Oui.
D'accord. Donc quand, par exemple, Jacob, d'accord, dans sa lignée, il y a plusieurs prophètes, dont Moïse, Moussa, qui est un prophète très important pour l'islam, oui, qui a été cité beaucoup plus de fois même que notre propre prophète dans le Coran.
Ah.
Ça, c'est important de le savoir. On le sait pas.
Aujourd'hui, on est là pour ça, voilà, pour apprendre des choses.
Et donc, il faut savoir que là, nous sommes dans le dernier mois, nous y reviendrons déjà, du calendrier islamique. Et dans le mois prochain, c'est le mois de Muharram, donc le premier mois de l'Hégire, d'accord, du calendrier islamique.
Mm-hmm.
Il y a une date, c'est le 10 Muharram, d'accord. C'est la libération du prophète Moïse, Moussa, il a été libéré des griffes du pharaon.
D'accord. C'est à ce moment-là. Okay.
Voilà. Mmh. Et donc, il faut savoir que même en islam, donc dans la religion que l'on a aujourd'hui, celle de Mahomet, Mohammed, on jeûne ce jour-là. On le fête aussi.
Le 10 Muharram.
Voilà. Mmh. C'est la libération de Moïse, Moussa, et il a été libéré de pharaon.
Mmh.
Voilà. Et même cette fête-là, pas cette fête, mais cet événement-là, on le célèbre en jeûnant.
D'accord. Le jeûne, pour vous, c'est considéré comme un...
Voilà.
C'est tellement important qu'il faut jeûner.
Voilà. Quoi. Et c'est le prophète lui-même,
oui,
qui nous a conseillé de jeûner ce jour-là. Il y a beaucoup de bénéfices à jeûner ce jour-là. Et ça, c'est important de connaître.
Donc ça c'est une des paroles qui a été rapportée.
Du prophète lui-même.
Du prophète lui-même en disant.
Lui-même, il a dit que c'est le jour, en ce sens, c'est le jour où Moïse, Moussa, a été libéré de Pharaon.
D'accord. Et donc, en son honneur.
Voilà, en l'honneur de cet événement-là, pour remercier Dieu, Allah, donc notre Dieu, mais aussi, bon, Dieu, on va dire en général, on va jeûner ce jour-là. D'accord. Avec nos confrères juifs, bien entendu, qui s'élèvent aussi, peut-être de différentes manières, ce moment-là.
Ah, ça serait bien d'avoir Mendel ce jour-là.
C'est intéressant parce que l'islam, il n'a jamais rejeté les autres religions.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, pour le musulman, chaque époque avait son islam, finalement. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, pour aller plus loin, pour finir, on a Jésus, Hazrat Isa, donc pour nous, qui est un prophète très très important en islam. Mm-hmm. Donc nous, la croyance qu'on a, c'est que Jésus, Isa, il a été monté aux cieux. Déjà, c'est un prophète pour nous, c'est pas le Fils de Dieu. Et il est arrivé, donc il est venu sur la terre, etc., inviter les gens. Même dans le Coran, c'est écrit « Wa awsani bis-salat wa zakat ». C'est-à-dire, lui aussi, on lui a été prescrit la salat, donc la prière. Donc peut-être sous notre forme que l'on a actuellement. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Syrie, par exemple, il y a certains chrétiens qui pratiquent cette forme de prière, qui ressemble beaucoup à la prière musulmane.
Ouais.
Et donc, on ne sait pas. Hein, donc, en tout cas, dans le Coran, on a deux piliers de l'islam, qui sont cités, donc la sola, donc la prière, oui. Et la zaka, l'aumône obligatoire, chez les chrétiens, du coup. Voilà, donc... c'était une petite, enfin une grande parenthèse déjà, mais c'est important de comprendre.
Moi, je me posais la question.
Oui, oui.
On a l'islam.
Oui.
L'islam, ça veut dire quoi, islam?
Islam, ça veut dire paix, tout simplement. Ça veut dire la paix. Donc, dans tous les sens du terme, hein, donc la paix religieuse, la paix sociale, la paix psychologique, c'est la paix. Quand l'islam est arrivé, il a instauré la paix. Donc, il faut savoir, pour revenir vraiment à l'islam que l'on a actuellement, donc il faut savoir que l'islam, il est apparu donc, en Arabie. D'accord ? L'Arabie, à cette époque-là, c'était pas un pays musulman, hein. Tout le monde croit que c'était un pays musulman. Non, c'était un pays chrétien. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Et surtout, à la Mecque, hein, il y avait des polythéistes. Donc les polythéistes, par quoi on peut se référer, le polythéiste aujourd'hui, les bouddhistes peut-être, je ne sais pas.
Il y en a beaucoup, c'est-à-dire ce sont des gens qui croient en plusieurs dieux, en plusieurs statues.
Voilà, c'est ça. Donc c'est voilà.
Choisir une religion...
À
l'époque, ça devait s'appeler d'une certaine
manière.
Oui,
voilà, c'est ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Oui. Mais bon, c'est ceux qui adorent plusieurs dieux avec des statues, etc. Des représentations de dieux, finalement. Voilà. Donc, l'islam est né dans un environnement polythéiste, chrétien et juif. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Tout le monde croit que l'Arabie, ça a toujours été musulman. C'est faux.
Non, c'est faux.
Donc c'est effectivement la famille du prophète, c'était les Quraysh, les Quraishites. C'était une famille très riche, très puissante. Ils étaient polythéistes.
Et reconnus dans...
Et reconnus dans le monde arabe. Dans le monde arabe. Faut savoir que c'était de grands guerriers, hein. Et ils étaient très imposants, ils étaient charismatiques, et surtout c'était de grands poètes, ça faut pas l'oublier.
Ah ouais, c'était des poètes.
Ah, c'était des poètes.
Ah ouais, d'accord.
Oui. Bah, en fait, chaque époque a connu sa spécificité.
Oui.
Et par rapport à ces spécificités, Dieu a donné à chaque prophète certains dons. C'est un miracle. Par exemple, pour Moïse, Moussa, c'était l'époque de la sorcellerie.
D'accord.
Et même aujourd'hui...
Moussa était sorcier ?
Attendez, j'y reviens. Non.
C'est pas ça.
Mais c'est l'époque.
C'est l'époque, la magie.
L'Égypte. On connaît tous l'Égypte antique.
Ah, on a entendu parler, ouais.
Oui, voilà. Donc c'était vraiment la magie, etc. Donc Dieu lui a donné ce don-là.
De faire des miracles, lui, par rapport
avec son bâton.
Voilà, avec son
il
bâton.
Il a jeté, qu'il s'est transformé en serpent, etc. Là, bon,
c'est ça.
Donc, c'est de la tradition islamique. On a une version dans d'autres religions, peut-être on a d'autres versions. Mais en tout cas, les magiciens, ils ont reconnu que c'était pas quelque chose. C'est pas de la magie, des poudres de perlimpinpin, comme on dit, mais c'était vraiment quelque chose de divin. Et donc, chez les Arabes, bien après, quand le Coran descendra, ils verront la divinité, l'unicité de Dieu dans les versets coraniques. Mais bon, ça c'est encore... On va trop loin.
On peut en reparler à une prochaine émission. Alors, donc on a vu l'islam, ça veut dire la paix.
C'est ça.
Et musulman. Pourquoi on passe de l'islam à musulman?
Mais Mais en fait, musulman, c'est une contraction de contraction de contraction. Normalement, c'est musulman. C'est musulman. Muslim, ça veut dire celui qui est musulman, finalement, celui qui croit, enfin, qui est apporteur de paix, c'est celui qui est mu'mine aussi, qui est croyant aussi.
Muslim, c'est un mot arabe, c'est ça ?
C'est ça, c'est un mot arabe, et je pense que, d'après les recherches que j'ai vues, musulman, apparemment, c'est une contraction qui vient des Turcs.
Ah, c'est turc.
Voilà, donc ça a été repris dans la langue française. Mais si par exemple en ourdou c'est Moussalman,
oui, j'ai déjà entendu
voilà.
Ça. Oui.
Donc c'est des contractions comme ça, mais le vrai mot c'est musulman.
C'est musulman, donc c'est un mot arabe.
Voilà.
Et nous en français, ça a été traduit alors.
Voilà. Donc, même pas traduit, c'est des contraintes. Hein, c'est l'histoire qui a fait qu'il y a eu des contractions turques, etc.,
ouais.
qui a fait que c'est devenu musulman. Voilà.
Et ça veut dire quoi, musulman?
Musulman, ça veut dire celui, justement, qui apporte la paix, celui qui est en paix, etc. Ouais. Voilà.
D'accord. Donc, on va faire une petite pause musicale.
Ouais.
Et on va revenir d'ici quelques minutes après la chanson. Merci.
Bon.
Retour sur Capital FM. Alors, vous pouvez nous écouter sur 90.2 si vous rentrez à la maison et sur la page Facebook aussi, la page Facebook Capital FM Réunion et sur le site de la radio capitalfm.re. Donc, nous continuons notre découverte pour ceux qui ne connaissent pas l'islam. Et donc, là, on va arriver sur l'un des livres Ah, il y a une moto qui passe. Comme quoi, c'est bien du direct. Hein. Et on va parler du Coran.
Bien sûr.
Alors, on dit qu'il est étudié et comment on peut l'interpréter de façon très très succincte, hein. Je veux dire que c'est assez compliqué, c'est très long, il y a beaucoup de mots.
Déjà, juste pour revenir sur la question avant, sur le musulman. Muslim, ça veut dire aussi, islam, ça veut dire aussi soumission, et muslim, ça veut dire aussi soumis à Dieu. C'est juste pour. Il y a plusieurs interprétations, il y a la paix, etc., etc. Donc, pour le livre qui est lu étudié de la religion musulmane, donc il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un.
Ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait qu'un.
La base, bien entendu, c'est le Coran, le Coran. Donc, je vais vraiment. On a le Coran, ensuite on a les différents livres de Ahadith. Les Ahadith, c'est les paroles du prophète qui a été rapportées par les compagnons. On y revient pour les compagnons après. Ensuite, qui a été compilé par des gens qui sont arrivés bien après. C'est un travail minutieux, c'est un travail exceptionnel qui a été fait et dont l'authenticité peut être vérifiée à chaque palier. Chaque personne qui rapporte une parole, on peut avoir sa biographie complète. D'accord. Et par rapport à cette biographie, on peut, sur une échelle, dire si c'est recevable ou pas.
Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une lignée.
Il y a authentification.
Et qui c'est qui authentifie le.
C'est les savants.
C'est les savants.
Oui. Donc, eux-mêmes, mais ils sont tellement minutieux là-dessus, ils ont sacrifié leur vie, que vraiment, c'est un travail exceptionnel. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, le Coran, c'est le livre le plus important de la religion musulmane. Donc, il ne faut pas oublier que le musulman aussi, il croit en la Bible, aux évangiles, à la Torah et aux psaumes aussi.
Aussi, d'accord.
Donc, c'est écrit dans le Coran d'ailleurs, Torah, Zabur, Injil, etc. Donc, ils sont mentionnés dans le Coran, bien entendu. Donc, nous y croyons en ces livres. C'est juste que pour les musulmans, et je pense que pour bon nombre de croyants aussi, nous savons qu'il y a eu quelques modifications, on va dire, dedans. Mmh. D'ailleurs, ça se fait toujours. Hein. Par exemple, quand on regarde certains articles, etc., qu'au Vatican, ils ont changé certaines choses, tout ça, c'est bien sûr, c'est leur système de fonctionnement. C'est leur clergé, bien entendu.
C'est le droit de chacun de modifier.
Voilà, ils le font. En tout cas, chez les musulmans, il n'y a pas de modification dans le Coran, et même, c'est un grand péché, et même Dieu, Allah lui-même, il a porté garantie de, justement, que ce Coran ne soit pas modifié. Donc il faut comprendre qu'à La Réunion, on est une petite île.
Magnifique.
Voilà. Mmh. Et nos jeunes, ils apprennent le Coran par cœur. Et nous avons un pourcentage, ça s'appelle des hifz, d'accord, des gens qui apprennent le Coran par cœur. Et on a un pourcentage exceptionnel de hifz, de gens qui apprennent le Coran par cœur à La Réunion. Donc, pour 1 million d'habitants, on a un nombre impressionnant de gens qui connaissent le Coran par cœur. D'ailleurs, il y a quelques jours, je publiais moi-même, moi ça fait 20 ans que j'ai fini le Coran par cœur, j'étais au collège encore. Donc souvent, c'est au collège qu'on termine. Donc c'est vraiment connaître les 30 chapitres par cœur, hein, en arabe, bien entendu.
Oui, en arabe, oui.
Donc c'est vraiment de la récitation, on n'est pas dans la compréhension encore. La compréhension, c'est après, quand justement on va faire des études pour cela. Ça s'appelle des études de tafsir, de compréhension du Coran. Et pour l'interprétation, justement, on ne peut pas l'interpréter n'importe comment.
Oui, je suppose que vous... J'ai posé la question pour...
Voilà, donc on a déjà des savants, d'ailleurs, même des compagnons qui ont déjà fait son interprétation. Et ensuite, on a des savants... on va dire des pieux prédécesseurs, si on veut, qui ont déjà fait cette interprétation. Mais ils étaient, c'était des mères de savoir. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre nous-mêmes d'interpréter. Mais bien entendu, comme toute chose, il faut contextualiser, c'est-à-dire prendre le son de ce qu'il y a dans les Corans. Par exemple, chaque époque a connu son pharaon. Chaque époque a connu son Moïse. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et l'histoire se répète.
L'histoire se répète. C'est peut-être ça parce que.
Voilà.
Ouais, je sais pas, moi j'ai pas. Voilà.
L'histoire se répète, par exemple, c'est un exemple que je peux prendre.
Oui.
Après, on a bien sûr des conseils qui sont intemporels.
Mm-hmm.
Donc, ne pas mentir, ne pas voler, bien se comporter, etc. etc. Mm-hmm. Voilà.
Donc, c'était la tablette là avec les 10.
Oui, c'est ça là. Donc, il y a ça aussi. Bien entendu.
Tu ne voleras pas, tu ne tueras point.
Voilà, ça, il y a aussi dans le Coran, ça existe aussi dans le Coran. De toute façon, tous les prophètes, ils ont invité, selon les musulmans, bien entendu, selon l'islam, à l'unicité de Dieu. Et bien sûr, à le craindre, bien entendu.
À quoi ?
À craindre Dieu.
À craindre, d'accord.
Ah, bien sûr, j'ai compris. Craindre.
J'ai compris.
Mais craindre comme un papa, hein.
Oui,
comme,
bien sûr.
Voilà.
Et donc. Ce Coran, donc on l'étudie, on l'apprend par cœur, et on l'utilise aussi pour le culte, pour la prière.
Oui, voilà. Donc il est lu, oui, effectivement, il est lu dans les prières. Et des fois, il est lu tout simplement hein, pour soi-même. Hein. D'ailleurs, il est conseillé à chaque musulman de lire une partie du Coran tous les jours, et notamment dans le mois du Ramadan, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran.
Il y a une prière le soir.
Oui, donc cette prière-là, elle est propre au mois du Ramadan. Donc ouais. On essaye de finir au minimum un Coran entier dans les 20 unités de prière supplémentaires qu'il y a chaque soir pendant le mois du Ramadan.
Voilà. Comment s'appelle cette prière ?
Tarawih, ça s'appelle le Tarawih.
Tarawih, ça veut dire quoi, Tarawih ? Parce que on entend souvent les musulmans ils courent à la mosquée. Ça va là, ça fait Tarawih.
Tarawih, ça signifie tout simplement, ce sont les 20 rakat
oui.
que l'on fait, les 20 unités de prière que l'on fait après comment le
la prière du soir là.
Voilà. Après Tarawih, si on veut vraiment aller dans l'étymologie, ça veut dire comment se calmer. Donc vraiment reprendre son souffle.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que donc ça a plusieurs significations. En tout cas, c'est un souffle physique aussi, et c'est un souffle spirituel aussi finalement. Toute la journée, on a jeûné au coucher du soleil. On a mangé vite peut-être. On a mangé beaucoup peut-être.
Peut-être. Aussi.
Ouais. Donc il y a aussi un bénéfice physique dans ces 20 rakat pour la digestion, etc., donc, etc. C'est pour libérer la pression et on se sent mieux déjà physiquement.
C'est un peu de sport aussi qu'on fait.
Voilà, c'est ça.
Quand on descend, là,
exactement.
Quand on met la tête sur le.
C'est-à-dire vraiment la miséricorde, la tranquillité, le calme. Voilà, qui entre
on se retrouve après notre journée. Notre journée d'agitation.
Là, c'est vraiment pour décompresser, c'est le Tarawih.
D'énervement, voilà. Etc. Là, on va faire Tarawih et tout à coup, on se sent.
C'est pour se calmer. Le Tarawih, c'est vraiment pour. Mais le raha, le calme, la tranquillité, la douceur en nous, en fait, tout simplement.
Il y a combien de prières par jour à la mosquée ?
Donc, il y en a 5 qui sont obligatoires. Ouais. Hein, donc, le matin, avant le lever du soleil. D'accord ? Ensuite, on a l'après-midi, juste après le zénith.
Vers 13h, c'est ça ?
Voilà, vers 13h, à La Réunion, bien entendu, parce que ça dépend des pays. Par exemple, en métropole aujourd'hui, quand on est en été, c'est un peu compliqué.
Et ces prières, elles portent des noms. Alors, la première prière, s'appelle comment ?
La première, c'est celle de Fajr. Donc, c'est la prière du matin. Zohr, c'est la prière de l'après-midi, du début après-midi, vraiment après le zénith. Après, on a la salat, la prière de Asr. Donc, vraiment en fin d'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Après, on a une prière juste après le coucher du soleil. Et ça, je pense que tous les Réunionnais connaissent qu'il y a le muazzin, hein, l'appel à la prière, celui qui donne... L'appel à la prière, on entend dans toutes les villes de La Réunion, ça aussi.
Ça, vraiment, c'est bien, ça.
C'est le vivre ensemble exceptionnel qu'on a à La Réunion aussi. Et donc, celle-là, on entend hein, généralement. Donc, ça, c'est vraiment juste après le coucher du soleil. Et après, on a la Isha, c'est-à-dire la prière de la nuit. Voilà, donc ça, c'est tous
après,
les jours.
Et c'est après la prière de Maghrib.
Pardon ?
C'est après la prière de Maghrib, pendant le mois de Ramadan, où on rompt le jeûne, c'est ça ? Après le...
On rompt le jeûne avant.
Avant la prière ?
Avant la prière, voilà. Ouais. Donc... par exemple, dans le mois de Ramadan, on attend un petit peu avant de commencer la prière à la mosquée, bien entendu,
oui.
Pour ceux qui font la mosquée. Oui. Et pour la Isha, C'est un petit peu après, on va dire. Après, ça dure beaucoup plus longtemps. Par exemple, une prière, on va dire, classique de Isha, ça dure entre 7 et 10 minutes. Allez, si on fait tout avec 15-20 minutes, mais là, vraiment, on a une heure temps, deux heures temps. Hein, donc, voilà.
Et là, concernant le Coran, la pratique, la prière, qui, après, on va après écouter une petite chanson, qui peut mener cette prière, là, dans la mosquée ou ailleurs, hein, je veux dire, hein, et qui peut mener ça?
Donc ça c'est une question assez... On a la théorie, un peu on a la pratique.
Ouais, hein. D'accord.
Donc en tout cas, en théorie, pour résumer, c'est un savant, donc celui qui a la science, celui qui est pieux, et voilà, celui qui, on va dire, par exemple, quand le prophète était vivant, c'était lui-même qui dirigeait les prières. D'accord, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est lui le meilleur de son époque.
Ouais.
Maintenant qu'il est devenu vieux, il ne pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il était malade, etc. Il s'est fait remplacer par le premier calife qui est Abou Bakr.
Abou Bakr, ouais.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a quand même une échelle à respecter. À La Réunion, c'est... Après, vous me dites si on doit aller encore.
Non, c'est bon.
Donc à La Réunion, c'est un peu différent. Donc, il faut savoir qu'à La Réunion, les mosquées, en général, elles sont... donc, le conseil d'administration, etc., c'est pas vraiment des savants. Hein. Ce sont des gens lambda, des fois. Mm-hmm. D'accord ? Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Bon, on va pas rentrer dans les détails.
Non, c'est pas ça.
On va dire qu'ils décident un peu comme ils veulent, de mettre qui ils veulent. Donc, oui. Souvent, c'est la famille.
D'une façon, voilà. On va dire, plus simple, oui. plus raccourcie.
Oui.
Qui peut, qui peut pas. Voilà.
Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas la lecture, il ne pourra pas.
D'accord. Voilà. Oui. Okay. Voilà. C'est quand même une lecture du Coran. C'est,
voilà.
C'est
des choses. Il faut qu'il connaisse quand même les bases de jurisprudence.
Oui.
Qu'il ait une belle lecture. Et surtout qu'il a certains aspects physiques qu'on doit respecter, dont la barbe, par exemple.
Mm-hmm.
Ça, c'est une des normes, on va dire, pour être imam. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Bah, je vous remercie, Maroulana. Hein, c'est comme ça qu'on dit, Maroulana. Oui. Et là, on va écouter une chanson, c'est Le silence des mosquées. Et à tout de suite.
Yeah.
Capital FM 90.2 pour ceux qui sont qui sortent de leur voiture et qui rentrent chez eux et qui ont envie de nous écouter. Vous avez la page Facebook de Capital FM Réunion et vous avez le site de la radio capitalfm.re pour retrouver, écouter en direct maintenant votre émission La Réunion des Religions. Et aujourd'hui, je reçois mon ami Maulana Bana qui nous a fait des explications extraordinaires. Donc on va continuer parce que j'aime mieux le titiller. Alors, comment on devient imam, maulana, et tous ces beaux mots de la religion musulmane?
Donc, pour faire court, il faut savoir que je suis né à La Réunion. Mmh. D'accord. Bon, vu que je suis imam, j'expliquerai un peu. Donc, je suis parti au collège ici, j'ai fait mes études ici. J'ai passé le bac ici, au lycée Le Comte de Lille. D'ailleurs, je ne sais pas si le bac est terminé. Bon, bon courage aux bacheliers. Et je passe un bonjour à mes professeurs que je n'oublierai jamais, hein, de tout le collège Juliette de Dieu, lycée Le Comte de Lille, l'école Madrissa, l'école centrale, bien entendu. Et après, j'ai fait un BTS, etc. Donc ensuite, je suis parti en Inde, donc, faire mes études dans la même université que mon papa. D'accord, parce que mon papa est imam aussi. Donc c'est à Talgeshwar en Inde. Il faut savoir que mon papa est originaire de là-bas aussi.
Oui.
Donc, j'ai de la famille là-bas. Il y a la rue Bana aussi là-bas. J'ai ma maison. Donc, il faut comprendre que je suis un j'ai deux
binationales.
Voilà, ouais. J'ai deux nationalités. Et par exemple, pour citer quelques imams, par exemple, l'imam Bagat, par exemple, mm-hmm. Il est parti dans la même université.
Même madrasa,
voilà, c'est celle-là.
Ouais.
Ou bien, voilà, on peut ne citer que lui. Et donc, il faut aller faire un cursus, d'accord, de 7 ans.
C'est 7 ans d'études, alors?
7 ans d'études, effectivement, c'est un doctorat. On y reviendra de toute façon.
D'accord.
Et après, on peut se spécialiser.
Oui.
Donc, soit qari lecteur, soit mufti juge, finalement. Bon, il y a plusieurs... ou bien, si on veut aller... on devenait muhaddith, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste des hadiths, des paroles du prophète, etc. Donc ça dépend vraiment de quoi on veut spécialiser. Après les 7 ans, bien entendu.
Ah, c'est après les 7 ans?
Oui.
Ah,
d'ailleurs, pour nous, c'est 7 ans.
Oui.
Parce qu'ils ont raccourci un peu, vu qu'on va là-bas après nos 18 ans en général. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est local, c'est un peu plus long, vu qu'ils apprennent aussi, par exemple, la langue perse. Voilà.
Oui.
Donc ils apprennent la langue perse. Et du coup... pardon. Donc... c'est des examens à passer, tout comme toute université. Hein. Donc, par exemple, ici à l'ITMR, c'est...
qui est à peine des cas.
Voilà.
C'est l'Institut théologique de la Réunion.
Voilà, c'est ça. Donc, il n'y avait pas ça avant. Maintenant, il y en a à Saint-Pierre. Il y en a à Saint-Denis aussi, maintenant.
Oui.
D'accord. Et on peut devenir imam aujourd'hui, ici aussi. Voilà. Et tout en travaillant... ou bien en faisant des études à part, pas besoin de quitter La Réunion maintenant.
Ça c'est bien.
Ça c'est super.
Faut pas avoir peur d'avoir froid non plus. Hein,
voilà.
Bon, c'est un peu haut, c'est un peu froid, mais
on a Saint-Pierre aussi, on a.
Il y a Saint-Pierre, ouais, je sais. C'est des...
Donc voilà.
Et donc pendant cette année, qui sont en internat, hein, c'est
oui,
ça
moi j'habitais chez moi.
Ouais, vous
habitez
là-bas.
Oui, bon, on est en internat, effectivement.
Et on apprend quoi? Vous faites quoi pendant ces 7 années-là? Vous apprenez quoi?
Mais au début, c'est l'apprentissage de la langue pure et dure. Hein.
Ouais.
Donc, certains croient qu'on va là-bas pour réviser le Coran, tout ça. C'est faux, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est vraiment sur notre temps personnel. Donc, l'apprentissage des langues, arabe surtout, hein, vu qu'on en vient. Donc, c'est surtout l'arabe, vu que tous les livres importants sont en arabe. Donc, la langue ourdou aussi, vu que là-bas, la langue, c'est la langue ourdou, hein, on ne parle pas français. Donc, toutes les explications sont faites ourdou, finalement.
Donc, moi, oui, parce que c'est en Inde.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ben oui. Mmh. Et moi, j'avais des facilités par rapport. J'ai des parents indiens, donc je parle le Gujarati chez moi.
Ouais.
Donc, c'était un petit peu plus facile pour moi, on va dire. Donc, on a appris l'arabe par l'ourdou. Donc, voilà. Ensuite, on passe petit à petit, on monte de grade, on apprend la jurisprudence, donc les maslaks, comme on appelle chez nous.
Oui.
Ensuite, on a On a bien sûr les tafsirs, l'interprétation du Coran. Non, déjà, la traduction du Coran, déjà, hein, il faut l'apprendre par cœur.
Donc c'est, comme c'est en Inde, c'est traduction arabe-ourdou.
Arabe-ourdou et nous, ben, notre et travail ourdou, personnel en français.
C'est ourdou-français derrière.
Voilà, donc ça c'est pour nous. Hein.
Mais il n'y a pas de perte à traduire de...
Non. Non, je pense qu'on en gagne. On gagne. Ouais. Oui. Parce que, après, pas moi, mais en tout cas, chapeau aux étudiants étrangers. Parce que souvent, ils sont dans le top niveau. C'est-à-dire, même en Inde, ils sont premiers dans, on va dire, dans les 5 premiers de la classe. Hein, donc, ce n'est pas un handicap du tout. Bien au contraire. Ouais. Voilà, par exemple, juste pour citer le directeur de l'ITMR, lui, il était carrément premier de la classe. Donc, il était en concurrence avec un professeur à moi qui est en Inde aujourd'hui.
Professeur de l'ITMR que je connais très bien.
Voilà.
Et que je salue aussi.
Cher Anas Lala, bien entendu. Bien. Et il était premier de sa classe. Hein, donc,
donc, à La Réunion, on a des premiers de la classe alors.
Ah oui, non, mais à La Réunion, on a des références quand même. Hein, il ne faut pas croire.
Ouais,
même dans la lecture. Hein,
oui.
Dans la lecture coranique, bien entendu.
Kalinorgat aussi, c'est ça qui...
Oui, Kalinorgat, c'est parmi les anciens, hein, ouais, bien entendu. Bien sûr. Hein, après, on en a beaucoup.
Dans ces études-là, on arrive, je crois, peut-être les plus hauts, c'est les mouftis. C'est ça,
voilà, les mouftis, bien entendu, c'est les juges, finalement, hein, les avocats. Oui. Donc, par exemple, dans un pays musulman, ce serait eux qui seraient juges au tribunal islamique, hein, tout simplement.
Ils font les lois, ils les défont, parce que on a eu beaucoup de d'interprétations et de un moufti ici, il n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire,
j'ai pas compris la question.
C'est-à-dire qu'un moufti dans un pays musulman, il a quel pouvoir? Enfin, il peut aller jusqu'où? Est-ce qu'il peut faire instaurer des lois, les enlever? Pour un petit peu ce qui...
Les lois dans un pays musulman, c'est la charia.
Ouais, la charia, d'accord.
C'est la charia, tout simplement. Oui. Il l'applique.
Il fait appliquer la charia.
C'est tout, voilà.
Ouais.
Il n'y a pas plus que ça. Ici, on est dans un pays français. On est à La Réunion, on applique la loi française,
entendu. Mais dans la communauté même, le moufti peut intervenir selon des...
Bien sûr, c'est selon la demande de la communauté, bien entendu. Voilà, il n'y a pas d'obligation... du côté de la loi française, bien entendu.
Oui.
Mais si on veut être bien spirituellement, bien entendu, on fait un appel à la moufti. Après, de toute façon, moi je le dis, hein, et on le dit souvent à la communauté, le plus grand moufti, c'est notre cœur. Hein. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, faut pas le faire, tout simplement.
Après la communication en islam, même dans les religions monothéistes, c'est directement avec Dieu.
Oui, voilà. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de clergé en islam. Il n'y a pas de clergé en islam, et ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, il faut parler comme ça. C'est une connexion Wi-Fi directe, Bluetooth direct. On peut utiliser un escalier pour nous aider à monter vers Dieu.
Oui.
Donc, par exemple, un chef spirituel, des imams, etc. Mais c'est une connexion directe. Il n'y a pas besoin de clergé. Il n'y a pas besoin d'approbation humaine, finalement. Pour pouvoir atteindre Dieu, c'est vraiment avec Dieu directement. Et c'est ça qui est exceptionnel. Le soir de la nuit, il est 4 du matin, personne ne nous voit, on prend notre tapis, on fait notre 2 unités de prière et on discute avec Dieu, tout simplement. C'est ça la beauté.
Ah oui, ça c'est... Et on va faire une nouvelle petite coupure musicale. Et donc on va rester toujours avec le silence des mosquées. Et on se retrouve ensuite.
Thank you. pour connaître les religions les plus présentes à La Réunion. Le catholicisme, le judaïsme, l'islam et l'hindouisme. Fred vous présente l'émission « La Réunion des religions » tous les derniers vendredis du mois de 11h à midi. Cette émission parlera de ce qui se fait et se dit dans les lieux de culte et les pratiques au quotidien. Une présentation simple et éducative de nos religions par des religieux de chaque culte. La Réunion des religions, tous les derniers vendredis du mois sur Capital FM, de 11h à midi, animée et présentée par Fred.
Nous sommes de retour sur Capital FM 90.2, sur la page Facebook Capital FM Réunion, sur le site de la radio capitalfm.re, et vous pourrez nous retrouver ensuite sur le site de la radio, sur la Facebook en podcast, où vous pouvez déjà voir deux autres émissions. Alors on va parler maintenant de qui est Mohamed, Mahomet, hein, selon la langue coranique.
Mohamed plutôt, Mohamed, c'est pas très...
Oui, voilà. Mohamed, oui. Et qui sont...
Paix soit sur lui.
Et que la paix soit sur lui, effectivement, et ses compagnons. Donc qui est Mohamed, et on a, dans la religion, enfin, je veux dire que les non-musulmans, on va dire, ne connaissent pas, ou peut-être pour certains, n'ont jamais entendu parler des compagnons, et c'est pourtant des personnes très importantes.
Donc déjà, pour revenir sur le prophète Mohamed, hein, paix soit sur lui, et comme je l'avais expliqué en première partie d'émission, donc c'est un descendant d'Abraham, d'accord, déjà. Donc on a Isaac, d'accord, les descendants Isaac, il y a Moïse et Issa, Jésus, donc dedans. Et de l'autre côté, il y a Ismaël. Oui. Ismaël. Donc, il y a ses deux frères, hein, Israël et Ismaël. Et Ismaël, dans son descendant direct, c'est Mohammed.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que les religions monothéistes sont liées, bien entendu. Donc, là-bas, vraiment, on est vraiment dans les enfants d'Israël, hein, de Jacob. D'accord. Ouais. Et ici, on est vraiment du côté de Ismaël, en fait.
Ismaël, donc.
Mais c'est la même famille, c'est Ibrahim, c'est l'ancêtre commun.
D'accord. Et donc dans la lignée, c'est un descendant direct de
d'Abraham. Ah, voilà, exactement. Ah, ouais. C'est exactement ça. Ouais. D'ailleurs, on va faire court, on n'a pas trop le temps. Il est descendant des Quraysh aussi, donc, oui. De la famille arabe qui était polythéiste, qu'on en a parlé. Et en tout cas, son grand-père Abdul Muttalib, c'était quelqu'un d'important aussi. Donc le prophète, il a connu une enfance difficile. Il a perdu son papa avant sa naissance, sa maman très tôt. Il faut savoir qu'à cette époque-là, orphelin, déjà, survivre en étant orphelin, c'est un miracle déjà en soi. C'est un miracle. Et ensuite, l'excellence de son caractère, on l'appelait Al-Amin, hein, le véridique, celui digne de confiance, c'était exceptionnel. Il avait l'amour de tout le monde. Il gardait le troupeau. D'ailleurs, il faut savoir que tous les prophètes, en général, ils étaient bergers. Hein, c'est un peu l'entraînement pour un peu guider la population, etc.
Ouais.
Donc ils étaient tous bergers, lui aussi était berger, bien entendu, et c'était aussi un peu la banque de tout le monde, il gardait les biens des gens, etc. etc.
C'était vraiment une personne...
Quelqu'un digne de confiance,
digne de
le
confiance.
Véridique.
Oui, oui.
Voilà, et donc à 25 ans, il va se marier avec Khadija.
Oui.
D'accord. Donc, il travaillait... Alors, il faut savoir que le prophète Mohammed, il était très en avance sur son époque. Déjà, il avait 25 ans, il s'est marié avec une femme de 40 ans.
Ouais.
Ça, faut bien le comprendre, hein, faut bien le savoir. Les autres femmes sont venues bien après. Et sa femme était businesswoman. Elle était commerçante. Ah. Une riche commerçante, en plus.
Riche commerçante, d'accord.
Donc à l'époque, hein, vous imaginez, aujourd'hui, bien entendu, ça se fait. Il n'y a pas longtemps, mais il y a 1500 ans avant, le prophète, il s'est marié avec une femme déjà plus âgée que lui et qui était commerçante, en plus. Donc, les femmes, bien entendu, elles ont le droit, doivent.
Oui, de travailler.
Travailler, bien sûr, mais oui. Bien sûr que oui. Et donc, il a travaillé pour elle et il s'est marié avec elle, du coup. Donc, ça, c'était son plus grand amour. Hein.
Ouais.
Et il le dit, et il le dit. Après, il l'a perdu, bon, dans l'année de la tristesse, etc. Bref, dans tous les cas, il est devenu prophète à l'âge de 40 ans.
C'est la révélation,
c'est... La révélation, donc c'est lié avec le Coran, Iqra, lit. Donc il faut savoir que le prophète, il n'était entre guillemets illettré.
Ouais.
Il ne savait ni lire ni écrire. La raison pour laquelle il était illettré, entre guillemets, c'est que pour que personne ne puisse dire que c'est lui qui a écrit le Coran, il l'a inventé.
D'accord.
Comment quelqu'un qui n'arrive ni à lire ni écrire peut lui-même écrire un livre? C'est pas possible. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle Dieu a décidé de ne pas le permettre de lire et d'écrire. Pourtant, c'était lui qui était
donc
le plus éduqué.
Donc c'est une personne qui a écrit ses paroles alors.
Donc oui, effectivement, la compilation du Coran s'est passée bien après lui.
Oui.
Voilà. Donc tout le monde, tous les compagnons, voilà, on va arriver aux compagnons.
Oui.
Les compagnons, c'est
d'où leur importance.
D'où l'importance. C'est, oui. C'est très très important. Si aujourd'hui on est musulmans, c'est aussi beaucoup grâce à eux.
Mm-hmm.
Enfin, c'est grâce à eux aussi.
Oui, oui.
Surtout.
Oui.
Donc les compagnons, c'est quelqu'un qui est devenu musulman à l'époque du prophète, qui a vu le prophète et qui a vécu avec le prophète et qui est mort musulman. Donc par exemple, quelqu'un qui a vu le prophète mais n'était pas musulman, c'est pas un compagnon, hein, bien entendu. Donc parmi les compagnons les plus importants, on en parlait, le premier calife, Abou Bakr. D'accord, lui c'était l'ami intime du prophète depuis très longtemps, c'était un des premiers à se convertir. Ensuite on a Omar, alors lui c'est un calife important aussi parce qu'il n'était pas musulman, il était l'ennemi juré des musulmans.
Ah.
Et il est devenu musulman.
Ah bah c'est bien.
Et quand il est devenu musulman, vraiment ouais. là c'est là vraiment qu'il y a eu justement cette ouverture, cette expansion de l'islam exceptionnelle.
Oui.
C'est beaucoup grâce à Omar, parce que c'était quelqu'un d'important chez les Quraysh, etc. Dans tous les cas, quand le prophète est parti de ce monde, le premier calife c'était Abou Bakr. C'est lui qui a repris les rênes. Et de toute façon, le prophète il a dit lui-même, il faut suivre ce que les compagnons vous disent, parce que ça vient de moi finalement.
C'est lui qui, au moment de sa mort, enfin, le prophète Mohammed,
oui,
a décidé, à ma mort, c'est toi qui vas prendre le relais. On va dire ça comme ça, simplement.
Voilà, après, oui. Écoutez, il n'y a même pas de discussion, en fait.
Mais il n'y en avait pas à l'époque.
Non, mais c'est même pas une discussion à avoir, en fait. Parce que déjà, le fait que quand il était vieux, il ne pouvait pas diriger la prière, il a donné l'imama, comme on dit,
oui,
le fait de diriger la prière à Abou Bakr, c'est déjà un signe, c'est déjà une directive déjà.
Ouais.
Que voilà, ça sera lui après moi. Yeah. D'ailleurs, Abou Bakr, c'était aussi le beau-père du prophète, parce qu'il était marié avec sa fille, Aïcha, radiallahu anha. Et donc, il faut savoir qu'à Médine, là-bas, le prophète est enterré là. Ensuite, on a Abou Bakr qui est enterré à côté et Omar qui est enterré juste à côté.
Allez.
Ensuite, on a Osman, d'accord, et Ali. D'ailleurs, pour revenir à Osman, c'est lui qui vraiment a compilé le Coran comme on le voit, on va dire, sous forme actuelle. Et juste pour l'enterrement, une petite parenthèse, il y a aussi une place qui est réservée à Jésus.
Issa. Jésus,
parce qu'on a la conviction qu'il va revenir en tant que communauté du prophète à la fin du monde.
Eh bien, Maulana, on arrive à la fin de notre émission.
Mais
on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme oui,
malheureusement, on n'a pas le temps.
C'est...
Je m'excuse, j'ai peut-être fait des erreurs.
D'ailleurs, mais voilà, c'est... pour moi, il n'y a pas d'erreur. C'est voilà. Vraiment, c'était vraiment un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Maulana.
Mais c'est de même, merci de m'avoir reçu.
Et on se reverra parce que il y a des fêtes, il y a la fin d'année.
Bien sûr.
Et puis il y aura l'année prochaine aussi, parce que bon, c'est une fois tous les mois, donc on aura largement le temps de se revoir, de rediscuter sur plein de choses. Donc, Capital FM, c'est sur 90.2, la page Facebook Capital FM Réunion, le site de la radio.
En tout cas, je vous coupe, mais j'aimerais vous remercier.
Oui.
J'aimerais remercier l'équipe technique, etc.
Oui.
Et ensuite, j'aimerais remercier tous les Réunionnais qui nous écoutent et qu'on reste pareil dans cette justice, ce vivre ensemble.
Ce vivre ensemble que nous connaissons bien à la Réunion.
Qui est exceptionnel. Et de toute façon, nous toutes les avec. De toute façon, on avait un monde dit comme ça, la Réunion, il y en a toute nation.
Toute nation, toute couleur.
Voilà. Donc, nous tous nous connaissons.
Tout nous connaît où ça nous est. Voilà. Et merci beaucoup.
Voilà, en
et...
tout cas, Ben Mosquée, il est ouvert. Nous, il est ouvert. Si vous avez le contact à nous.
Donc, si on veut visiter une mosquée, il n'y a pas de souci.
Oui, il n'y a pas de souci. Viens voir à nous aussi. Contacte à nous sur Facebook. Envoie à nous mail. Appelle à nous. On n'a aucun souci.
Donc, il y a un
garde site pas ton télé des fois.
C'est quoi le site où on peut contacter? C'est Musulmans de la Réunion, c'est ça?
Ça, c'est Facebook. Le groupe Musulmans de la Réunion. Oui. Ça c'est Facebook, sinon moi c'est Mohamed Bana sur Facebook, hein, bien entendu. Après il y a mon mail aussi, peut-être que je mettrai dans on mettra mon mail. Donc voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maulana.
Merci à vous.
À bientôt. Merci, Giovanni. Et au mois prochain.
Allez, à bientôt. Salam, au revoir.